Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Un salut spécial aux nouveaux auditeurs de cette émission. J'espère que beaucoup d'entre vous profitent de ce pont de l'Ascension pour se reposer et s'adonner à leur passe-temps favori, alors que le mois de mai touche déjà à sa fin. L'actualité musicale se relâche un peu aussi durant cette période, mais c'est pour mieux se relancer dès la semaine prochaine et les suivantes, avec de nombreux récitals et concerts un peu partout. Nous allons nous attacher à vous en donner le panorama le plus complet possible lors de ce numéro, pour lequel j'ai la chance d'accueillir de nouveau aujourd'hui mes camarades Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Ils entourent notre invité d'honneur, le flûtiste Michel Brun, fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse et du festival Passe ton bac d'abord qui a lieu cette année du 7 au 9 juin. Nous allons nous plonger dans la programmation de cette 12e édition avec Michel Brun en seconde partie d'émission. Dans l'immédiat, c'est sur l'actualité musicale récente que nous allons revenir avec Anne-Marie et Serge à l'occasion de notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
La saison des grands interprètes se termine, mais elle propose des concerts à des dates rapprochées ces temps-ci. Le dernier a été donné jeudi 23 mai, et c'est l'orchestre Les Siècles de François-Xavier Roth qui s'y produisait, en compagnie de la mezzo-soprano Marie Lenormand. Le programme était un hommage à Hector Berlioz, dont nous commémorons en 2019 le 150e anniversaire de la mort. Quelles œuvres ont été jouées, Serge ?
Eh bien, uniquement du Berlioz, évidemment, avec l'ouverture Les Francs Juges, cette fameuse ouverture qui n'est pas suivie d'un opéra, puisqu'il n'a jamais achevé l'opéra. Et puis le fameux cycle de mélodies Les Nuits d'été, qui est une merveille de sensibilité, de finesse, de poésie. Et puis, on ne pouvait pas l'éviter, la symphonie fantastique. Mais alors, tout ça, donc, c'était joué par l'orchestre Les Siècles, qui est un orchestre jeune, hein, qui a été créé en 2003 par François-Xavier Roth. Et surtout qu'il y a une grande particularité, s'il a un répertoire très large, qui va de la musique baroque à la musique contemporaine, il joue chaque répertoire avec les instruments adaptés, les instruments historiques de l'époque. Et ça change tout. Je suis sûr que Michel Brun, qui est là parmi nous, est un peu de cet avis. Effectivement, on se rend compte que les œuvres s'écoutent autrement lorsqu'elles sont jouées avec l'instrumentarium de l'époque, à condition évidemment que les musiciens soient aguerris à ces instruments que l'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre, surtout dans le répertoire romantique. Berlioz, d'habitude, c'est joué par des orchestres modernes, ce qui est très bien, l'un n'empêche pas l'autre. Mais là, moi, ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est la sonorité générale, le relief qu'acquiert cette phalange avec les instruments, par exemple les trompettes et les cors naturels, sans piston évidemment, les instruments à cordes sont à boyaux, et puis il y a des instruments auxquels on est plus habitué, notamment l'ophicléide, qu'on a complètement oublié, alors que Berlioz l'avait intégré dans son orchestre de la Symphonie Fantastique, et le serpent, ces deux instruments, ophicléide et serpent, qui ont été remplacés par le tuba par la suite. Donc vraiment, j'ai eu l'impression, alors je vais directement à la Symphonie Fantastique, de redécouvrir cette œuvre. Vraiment, on entend des reliefs, on entend des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et puis, ça fait plaisir de réécouter cette déclaration d'amour. Hein. L'œuvre est une déclaration d'amour de Berlioz à la fameuse Harriet Smithson, qui n'avait pas encore rencontré, dont il était tombé amoureux. Voilà, c'était vraiment impressionnant, à la fois de poésie, de finesse et de nuance. Il n'y a pas que de l'éclat. Il y a un éclat particulier, bien entendu, mais il y a beaucoup de finesse et beaucoup de nuances de la part du chef qui vraiment obtient de son orchestre des choses tout à fait inhabituelles dans les interprétations courantes de cette symphonie. Notamment, il a vive les arêtes, hein, les contrastes sont là, hein, c'est vraiment très très bien. Alors l'ouverture des Francs Juges, c'est un peu pareil, hein, c'est une œuvre de toute jeunesse, hein, de Berlioz, très belle aussi, et donc peut-être qu'Anne-Marie...
Oui, je vais demander l'avis d'Anne-Marie sur la Symphonie Fantastique, on reviendra après sur Les Nuits d'été, parce qu'il faut qu'on parle de Marie Lenormand,
évidemment,
la mezzo-soprano qui interprétait ses mélodies Berlioz. Oui, Anne-Marie, donc sur la Symphonie Fantastique.
Oui, ben, la symphonie fantastique qu'on connaît, reconnaît, qu'on entend très souvent, j'ai beaucoup apprécié l'interprétation parce que derrière le souci de la reconstitution, comme me l'avait précisé François-Xavier Roth, oui. C'est qu'il réussit à mettre aussi beaucoup de passion, tension, et qu'il n'affadit pas l'œuvre sous les détails. Il sait mettre en valeur les timbres, les détails, sans pour autant passer à côté de cette œuvre qui est tout de même particulière et pas du tout classique sur aucun plan, et pleine de passion qui doit être tendue de la première à la dernière note. Et je crois qu'il relève le défi, ainsi que cet orchestre qui est d'une tenue, dans ce répertoire, une tenue formidable, et que tout ça fonctionne. D'ailleurs, les gens qui n'étaient pas forcément attachés à cette œuvre ou qui ne la connaissaient pas ont été vraiment un vrai triomphe, parce que ce n'était pas une symphonie fantastique, disons, de demi-mesure. Berlioz, c'est jamais la demi-mesure, en fait. Hein. Non, même exactement. Si on le joue sur les instruments dits d'époque. Et là, c'est vrai que tout fonctionnait très, très bien et que c'était vraiment une très grande réussite.
Et puis, le désiré final, ça faisait dresser les cheveux sur la tête. Hein, avec les Ophicléides et le serpent, avec des sonorités extrêmement riches, vraiment très rondes, très belles. Donc, je trouve qu'il l'a remise à jour, cette symphonie.
On en arrive aux Nuits d'été. Voilà. Donc, interprétée par l'orchestre Les Siècles, bien sûr, mais cette fois-ci avec la mezzo-soprano Marie Lenormand. Alors, comment vous avez trouvé la prestation de cette jeune chanteuse ?
Ah ben, moi, j'ai beaucoup aimé, parce qu'elle l'a chantée de manière très intimiste, vraiment avec beaucoup de poésie. Et puis, enfin, avec une belle diction, ce qui n'est pas toujours le cas, même des cantatrices françaises, et des chanteurs, d'ailleurs, français actuels. C'est amusant, il y a eu une époque, dans la première moitié du XXe siècle, où les chanteurs était, comment dire, presque obnubilé par la perfection de la diction.
Prononciation, oui.
Et puis ça s'est un peu perdu, mais là on retrouve vraiment une chanteuse qui a envie qu'on la comprenne. Ce qui est quand même intéressant, les poèmes de Théophile Gautier, ils ont inspiré Berlioz,
c'est la base, il faut bien comprendre, ça part de là. Donc,
mais évidemment,
si on n'entend pas le texte,
évidemment.
C'est un peu embêtant quand même. Hein.
Donc c'était très bien, puisque c'était à la fois une interprétation poétique et naturelle, hein, sans affectation, très bien menée, avec les contrastes entre les deux mélodies extrêmes qui sont vives et animées, et puis les mélodies du centre, du cycle, qui sont beaucoup plus poétiques, beaucoup plus tristes même, puisqu'il y en a sur la mort, hein, dans la lagune. Donc vraiment, beaucoup de belles choses. Hein. Un beau cycle dans la continuité qui était très très bien mené.
Votre avis, Anne-Marie, sur Marie Lenormand ?
Oui, sa voix de mezzo semble se mouvoir dans ce répertoire avec aisance. Elle ne me fait pas oublier certaines interprétations, mais c'était aussi avec un naturel et surtout bien porté par l'orchestre.
Voilà, bien soutenu. Ouais.
Bien soutenu. Et en fait, c'était une vraie soirée berliozienne.
Ah oui.
C'est rare qu'on entende trois œuvres de Berlioz dans une même soirée, et je pense c'était un bel hommage qu'a rendu cet orchestre et son chef. Oui. Et je crois que les gens tous appréciaient, même ceux qui ne connaissaient pas forcément l'œuvre de Berlioz, en dehors de et même la fantastique, hein, n'est pas si évidente comme ça, même
non,
si on la joue beaucoup.
Alors, il ne faut pas oublier qu'ils ont donné un bis. Hein. Eh oui, ils ont donné un bis. Alors, bon, le bis le plus célèbre de tout le répertoire berliozien, puisque c'était la marche hongroise de la damnation de Faust. Et là aussi, avec un éclat, une espèce de crescendo magnifique, très très bien mené, vraiment.
Mais pour terminer un concert, c'est parfait.
Ah oui.
Et bien, pour saluer la performance de l'orchestre Les Siècles dans ce beau programme dédié à Berlioz, nous allons l'écouter maintenant dans une interprétation d'une des œuvres jouées le 23 mai, un extrait très connu, la fameuse valse du bal de la Symphonie Fantastique. Thank you. la célèbre valse du bal de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, interprétée par l'orchestre Les Siècles sous la direction de François-Xavier Roth, une des œuvres jouées lors de leur concert du jeudi 23 mai pour le compte de la saison des grands interprètes. Le lendemain, vendredi 24, avait lieu le dernier concert de la première saison de Toulouse Guitare. C'était à la salle du Sénéchal, devant une nombreuse assemblée. Preuve de plus qu'il y a décidément un public à Toulouse pour la guitare classique, surtout au vu du succès rencontré lors de cette année de lancement. Selon la formule souhaitée par Thibaut Garcia, qui organise cette saison avec ses parents, la première partie de la soirée a été assurée par un jeune guitariste, le Toulousain Isé Dastug, ancien élève du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse et ami d'enfance de Thibaut Garcia, comme celui-ci l'a rappelé en présentant son camarade. Ils ont d'ailleurs longtemps joué en duo ensemble, ces deux-là. Isé Dastug se perfectionne maintenant au conservatoire de Séville, où il est l'élève de Francisco Bernier. Et vendredi, il a joué quatre pièces, le prélude de la partita numéro 2 de Jean-Sébastien Bach, l'élégie de Johann Caspar Merz, compositeur autrichien de la première moitié du 19e siècle que j'ai découvert à cette occasion, les canciones castellanas de Regino Sainz de la Massa, et plus étonnant, une version de la chanson Yesterday des Beatles dans un arrangement de Toru Takemitsu. Est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui savaient que Toru Takemitsu avait arrangé Yesterday des Beatles?
Absolument pas.
Absolument pas, non.
Eh bien voilà, vous avez raté quelque chose. Tout ça, c'était vraiment très beau. Hein. Il a très très bien joué. Et d'ailleurs, ça lui a valu un hommage appuyé du public et de longs applaudissements mérités. J'espère qu'on aura l'occasion de revoir ce jeune et excellent musicien Isé Dastug dans les années à venir à Toulouse. Après sa belle prestation, il a laissé la place au duo vedette de la soirée, celui formé par les tout aussi jeunes Antoine Boyer et Samuel Ito. Alors là, je dois préciser que ces deux guitaristes, s'ils ont bien reçu une formation classique, œuvrent aujourd'hui dans le jazz manouche et le flamenco, ce qui ne les empêche pas de se réunir sur scène pour mélanger leurs univers respectifs. Ça nous a permis d'entendre aussi bien du Django Reinhardt que du Paco de Lucia. Pour ma part, je m'en plaindrai pas parce que j'adore ces deux merveilleux musiciens. Mais plus encore, on en a surtout entendu les compositions originales d'Antoine Boyer et Samuel Rouenel. C'est le vrai nom de celui qui s'est appelé Samuel Ito, parce qu'il est normand. Il a d'ailleurs précisé, il n'a pas d'ascendance gitane ou espagnole, pas du tout. Hein. Voilà. Donc ils nous ont donné des interprétations qui étaient souvent décoiffantes et virtuoses. Et ils ont même gratifié les spectateurs que nous étions de petites leçons des diverses formes du flamenco et des différents aspects du jazz manouche. Ils ont fait ça assez longuement, mais c'était pas du tout embêtant. Tous deux, outre le fait qu'ils sont d'excellents guitaristes, sont déjà de véritables passeurs de leur musique, bien qu'ils soient tout jeunes. Et puis ils ont un côté showman qui a beaucoup plu aux spectateurs. Ils sont drôles, ils sont sympathiques, ils sont doués. Bref, ils ont fait un tabac. Je vais vous proposer de les écouter maintenant dans une version d'une œuvre classique très connue, arrangée par leurs soins pour un duo de guitare. Je pense que vous allez vite le reconnaître. Thank you. Vous aurez reconnu bien sûr l'hiver des quatre saisons de Vivaldi dans cette version réarrangée et interprétée à la guitare par l'épatant duo formé par Antoine Boyer et Samuel Ito qui nous a régalé vendredi soir salle du Sénéchal pour le dernier concert de la saison Toulouse Guitare. Le programme de la prochaine, celle de 2019-2020, devrait être dévoilé d'ici fin juin et je signale d'ores et déjà à nos auditeurs que nous recevrons Thibaut Garcia pour l'évoquer avec lui lors de l'émission qui sera diffusée les 5 et 6 juillet. Nous enchaînons maintenant avec le concert qu'a donné l'orchestre du Capitole samedi à la Halle au Grain, sous la direction du très jeune chef finlandais Klaus Mäkelä et avec le violoncelliste hongrois István Várdai, autre jeune musicien, la jeunesse, toujours la jeunesse, pour un programme intitulé Debussy l'Enchanteur. Anne-Marie et Serge, vous avez assisté à ce concert au cours duquel, plus que Debussy, c'est surtout la musique française qui a été à l'honneur. Quelles œuvres et quels compositeurs ont été joués samedi ? Serge, allez-y, dévouez-vous. Ce programme était superbe.
Je me dévoue.
Et très varié.
Alors déjà, mais il faut quand même souligner qu'il n'est pas un inconnu, Klaus Mäkelä, à Toulouse. C'est peut-être la 3e ou 4e fois.
Au moins troisième.
Au moins troisième. Il était venu deux fois en 2018, mais je crois qu'il était venu aussi en 2017.
C'est bien possible, oui.
Donc, et il a 23 ans, ce qui est tout de même incroyable. Chef finlandais qui avait dirigé du Sibelius, comme il se doit, la dernière fois qu'il est venu, et là, qui dirige entièrement un concert consacré à la musique française. Donc formidable, avec du Messiaen, Les Offrandes oubliées, du Saint-Saëns, le premier concerto pour violoncelle, et puis une œuvre qu'on n'entend pas si souvent de Debussy, qui sont les images pour orchestre.
Et c'est bien dommage d'ailleurs.
Et c'est très bien dommage, et là on a vraiment pu enfin en profiter. Et ça se terminait par en quelque sorte un must, Boléro de Ravel, et je subodore que c'est grâce à ce Boléro que la Halle au Grain était pleine à craquer, avec beaucoup de jeunes en particulier. Vraiment, et un public enthousiaste. Hein. Donc, il étonne ce chef par sa maturité à 23 ans, dirigé avec une telle élégance, une telle précision. C'est fabuleux. Et puis, il faut dire qu'il est très bien, comment dire, non seulement suivi, mais accueilli par les musiciens qui, à la fin du concert, lui ont ménagé une véritable ovation. Et le chef, réciproquement, évidemment, qui allait féliciter chaque musicien. Alors donc, un programme intéressant de musique française, pas très traditionnel, à part le boléro, évidemment. Donc, Les Offrandes oubliées, d'Olivier Messiaen, dont on connaît le mysticisme militant. Et donc, une œuvre magnifique, qui évoque la crucifixion avec des couleurs, des contrastes. Des choses tout à fait merveilleuses que l'Orchestre National du Capitole joue avec un art particulier. Hein. C'était tout à fait merveilleux.
Œuvre qui avait sa place dans un programme intitulé Debussy l'Enchanteur, parce
oui.
que ça se relie quand même beaucoup à l'univers
exactement,
de Debussy.
Exactement, exactement. Absolument, oui, il y a une filiation, là, un héritage. Hein. Donc une très belle œuvre, vraiment très belle œuvre, magnifiquement jouée. Et puis il y a donc le petit retour vers le 19e siècle avec Camille Saint-Saëns et son concerto pour violoncelle, alors qui est en trois mouvements mais enchaîné. Et donc là, on a redécouvert, puisque je crois qu'Anne-Marie avait assisté, il était déjà venu pour jouer dans le
triple concerto de Beethoven.
Ah, vous parlez István Várdai. Hein.
István Várdai, le soliste, donc le violoncelliste, qui, signalons-le, joue le tout premier violoncelle construit en 1673 par Stradivarius. C'est tout de même
un vrai monument. C'est une responsabilité aussi pour lui.
Ah oui, une responsabilité énorme. Mais on se rend compte que ce violoncelle a une sonorité particulière, à la fois généreuse, très riche en harmonique, très belle, donc, et puis bien joué, évidemment, parce que il suffit pas d'avoir un bel instrument pour que le résultat...
C'est pour ça que je disais que c'était une grosse responsabilité pour lui d'avoir un tel instrument entre les mains.
Donc, on a beaucoup apprécié, moi en particulier, la richesse sonore du soliste, et puis son éloquence, vraiment, il s'est intégré dans le style Saint-Saëns de manière tout à fait particulière, avec une virtuosité, moi j'ai aimé parce que c'est une virtuosité sans ostentation, c'est-à-dire il n'en rajoute pas. Et alors, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il a joué deux bis, puisqu'il a été très applaudi. Et donc, il a joué tout d'abord la fin du final de la sonate pour violoncelle seule de Zoltán Kodály, qui est son compatriote, en quelque sorte, István Várdai. Alors là, c'est l'invention de nouvelles manières de jouer, avec des tas des pizzicati de la main droite, de la main gauche, les cordes frottées. C'est vraiment tout un vocabulaire particulier. Et puis, il a dû revenir pour un deuxième bis, et il a joué alors quelque chose de beaucoup plus classique. C'est le prélude de la première suite pour violoncelle seule de Bach. Bon,
on y revient toujours.
On y revient.
Oui, on peut pas s'éloigner très longtemps de Bach. C'est pas possible.
Oui, il a raison. On ne peut pas quitter Bach. Hein. Voilà, donc très bien. Et puis en deuxième partie, alors là, enfin Debussy, qui arrivait avec Gigue, Iberia et Ronde de printemps, qui sont les trois volets des images pour orchestre, hein, rarement données dans leur intégralité, vraiment très rarement.
Oui, c'est surtout Iberia qui est le plus connu. Hein,
voilà, Iberia évidemment. Est donnée très souvent. Iberia a des couleurs, évidemment, très très belles. Mais là aussi, le jeune chef a vraiment adopté le sens des couleurs de Debussy, la beauté des phrasés, très très bien, vraiment, avec notamment la poésie des parfums de la nuit d'Iberia, qui était tout à fait magnétique, on peut dire, hein, avec une sensualité dans la sonorité de l'orchestre formidable. Et puis enfin, bon, on est arrivé au boléro, alors là, tout le monde attendait le boléro, n'est-ce pas ? Alors, il faut préciser qu'il a tenu à jouer avec l'orchestre la version initiale boléro, celle composée par Ravel pour le ballet. Par la suite, Ravel a un peu modifié certains détails. Hein. Mais un détail particulier, il n'y a pas une caisse claire, il y en a deux là, oui. Et qui se répondent. Il y a une espèce d'écho entre les deux, bon, c'est assez particulier. Puis d'autres petits détails que je vous avouerai, je n'ai pas toujours détecté. Hein. On est quand même en terrain connu. Hein, oui. Et alors, ce qu'il a magnifiquement fait, c'est la rigueur implacable avec laquelle il a mené cette œuvre du début à la fin, sans essayer de dévier à droite à gauche ou de roubaptiser, si je puis dire, les choses, ce qui, à mon avis, serait une erreur. Donc, c'est un crescendo tout à fait implacable qu'il a mené du début à la fin, avec évidemment la participation des solistes, hein, puisque c'est quand même un challenge pour chaque musicien. Hein. En particulier, ça je veux le souligner parce que c'est peut-être le sommet des solos, le solo de trombone, qui était donc joué par David Loqueneux, le trombone soliste de l'orchestre. C'était un modèle, hein, de musicalité et de virtuosité. Donc, très très beau, et notamment avec un bis là encore. Mais c'est rare, un bis donné par l'orchestre,
oui,
maison.
C'est vrai.
Très rare. Hein. Ouais. Et donc là, il a donné Le Jardin Féerique, qui est la pièce finale de Ma Mère Loi.
L'apothéose de Ma Mère Loi.
Cette apothéose crescendo, qui est une vraie merveille. Oui. Et il a eu un triomphe, un véritable triomphe de la part du public et des musiciens d'ailleurs.
Anne-Marie.
Oui, ben je crois que Serge a tout dit sur toutes les facettes de ce concert, qui était tout de même un concert de musique française, un bel hommage à la musique française par des interprètes qui étaient d'ailleurs. Donc ça veut dire que la musique est parfaitement internationale et qu'il n'y a pas que les musiciens français qui peuvent jouer leur musique, puisque le chef est finlandais et
le soliste hongrois.
Hongrois, mais il vit à Vienne. Donc ça fait que c'est vraiment ce côté, je trouve, international de la musique classique, moi, qui me plaît beaucoup, parce que tout le monde peut jouer très bien. La preuve, Klaus Makela, en plus, qui n'a 23 ans, il a déjà compris ce qu'il fallait faire dans cette musique, comment tenir ce fameux boléro, avec la caisse claire qui est là depuis le début et qui doit maintenir un tempo qui ne faiblit pas, et en même temps, toutes les couleurs de l'orchestre qui doivent apparaître. Donc, je crois que dans ce domaine, Makela, il a un bel avenir dans la musique française.
Et oui, oui, et pas que, hein, dans toutes les musiques, puisque c'est ce qu'il avait donné précédemment.
Qu'on le reverra souvent à Toulouse pour diriger l'orchestre du Capitole.
Oui, espérons.
Non, je dis la musique française parce qu'en fait, on a eu tendance, peut-être à une époque, à faire cocorico, il y avait les Français qui comprenaient la musique française, et je crois que ce n'est pas le cas, la preuve.
István Várdai a joué le prélude de la suite numéro 1 de Jean-Sébastien Bach en bis, et c'est dans une exécution de ce morceau que je vous propose de le découvrir maintenant dans Mélomanie. Thank you. prélude de la suite pour violoncelle numéro 1 de Jean-Sébastien Bach, joué par István Várdai, avec lequel nous concluons cette première partie d'émission. Petite pause d'une minute et nous reprendrons le cours de cette émission avec Anne-Marie Chouchan, Serge Chauzy et Michel Brun, notre invité d'honneur. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur, Michel Brun, fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse, ainsi que du festival Passe ton bac d'abord.
Mélomanie, l'agenda.
Et comme annoncé en début de cette émission, nous retrouvons Michel Brun pour évoquer la programmation du prochain festival Passe ton bac d'abord, qui a lieu à Toulouse du vendredi 7 au dimanche 9 juin. Il y a encore une centaine de concerts prévus dans une trentaine de lieux différents, la plupart appartenant au patrimoine de la Ville Rose. L'an dernier, vous fêtiez les 10 ans de la manifestation avec une thématique flashback, c'est-à-dire un retour sur les 10 éditions précédentes, en compagnie de quelques-uns des artistes qui avaient marqué celle-ci. Une édition anniversaire saluée par une fréquentation record de 21 000 spectateurs. Et cette année, vous avez sous-titré la 12e édition L'offrande musicale, titre d'une œuvre de Jean-Sébastien Bach. Alors, il y a une raison bien précise à cela, c'est que cette pièce est typique de l'art du contrepoint du grand compositeur allemand et que le contrepoint est le fil conducteur du festival 2019. Autrement dit, vous vous êtes fixé l'objectif de donner accès au public, qu'il soit musicien ou pas, à la compréhension de ce style d'écriture musicale pour le moins complexe. Je sais que vous n'avez peur de rien, passe ton bac d'abord, mais est-ce que cet objectif n'est pas un peu ambitieux tout de même ?
Ben, la réponse le dimanche 9 juin au soir, voilà. Parce que, si vous voulez, en concevant ce programme autour de cette thématique, je crois qu'on est vraiment au cœur de la préoccupation qui m'anime et qui anime mes proches à l'ensemble baroque de Toulouse, à savoir rendre la musique classique accessible à tous, mais pour ce faire, ne pas lâcher d'un millimètre sur l'exigence. Et en choisissant cette thématique, évidemment, là, on place la barre très haut. Et voilà, j'espère que nous nous serons donné les moyens de la réussite de ce programme ambitieux, effectivement. Faire apprécier cet art si particulier, dans lequel on peut dire que Bach a été le roi, l'absolu aboutissement de ce style d'écriture, d'ailleurs, qui, après lui, a commencé à tomber plus ou moins en désuétude, qu'est le contrepoint, effectivement.
Et si je vous demande comme ça d'expliquer assez rapidement ce qu'est le contrepoint à des gens qui ne sont pas musiciens ? Comment vous allez vous y prendre ?
Alors, c'est assez simple à expliquer comme ça. Le contrepoint, c'est l'art de superposer plusieurs lignes qui suivent toutes leur propre chemin. On peut, disons, différencier la musique en deux grands groupes. La musique plus simple à écouter et à composer, qui est juste une mélodie avec un simple accompagnement. Alors ça, par exemple, on va considérer que c'est 95% de la musique qui est écrite comme ça, que ce soit la musique classique ou non classique. Hein. Un très bon exemple de ce mode d'écriture, c'est la variété. Un orchestre qui fait un tapis sonore simple derrière, et la voix du chanteur, qui est la seule voix qu'on écoute en réalité, vraiment. Le contrepoint, c'est donc le contraire, c'est chacune des voix qui joue dans l'œuvre, qui a son propre intérêt et qui poursuit donc son propre chemin. Et ça demande donc évidemment une grande science de l'écriture et ça demande aussi beaucoup d'attention de la part de l'auditeur parce que c'est souvent troublant de savoir qu'est-ce qu'il faut suivre comme oui. voix. Alors, quand c'est un contrepoint simple, comme par exemple Frère Jacques, qui est l'exemple le plus simple de contrepoint, c'est-à-dire un canon très simple. Voilà. Et un canon en plus basé sur non seulement une mélodie simple, mais en plus une mélodie populaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un canon ? Les deux voix vont commencer à chanter la même chose en décalé. D'accord ? Voilà. Les deux voix restent donc, pendant toute la durée du morceau, intéressantes. Et quand on est avec Frère Jacques, on est donc dans le cadre d'un contrepoint relativement simple. Mais quand on écoute une fugue à sept voix, comme le credo qui entame la deuxième partie de la messe en si, évidemment que là, les choses sont un petit peu plus complexes. Et donc, c'est ça notre défi, réussir à rendre cette musique familière aux auditeurs de Passe ton bac.
La messe en si, on va en parler bien sûr un peu plus tard dans cette émission, puisque c'est l'œuvre qui sera le centre du concert de clôture de l'édition 2019 de Passe ton bac. Mais il y a tout le reste de la programmation qui, si j'ai bien compris, est bâtie dans le sens de faire comprendre le contrepoint. Donc, quelles œuvres on va y trouver ? Quelles œuvres on va immanquablement y trouver ?
Alors, seront interprétées toutes les grandes œuvres de contrepoint de Jean-Sébastien Bach. Le clavier bien tempéré, par exemple, qui est ce recueil de 48 préludes et fugues, donc la fugue fait partie de cette écriture du contrepoint, 48 préludes et fugues composées au fil de sa vie par Jean-Sébastien Bach, mais là, avec une particularité, c'est que ces 48 préludes et fugues seront joués par 48 élèves du conservatoire. Alors je dois dire que c'est un projet que je trouve formidable, et encore plus formidable d'ailleurs d'avoir réussi à le faire aboutir, parce que je peux vous dire que ça n'a pas été rien à monter.
Oui.
48 élèves du conservatoire de Toulouse qui ont été coordonnés par un professeur du conservatoire de Toulouse qui s'appelle Laurent Molinès, qui est lui-même professeur de piano et qui d'ailleurs intervient en tant qu'artiste pendant le festival.
Il jouera aussi un concert.
Voilà, qui a déployé une énergie folle pour que ce projet aboutisse. Donc des élèves bien entendu de piano, mais également de clavecin et d'orgue, qui au cours de 12 concerts interpréteront donc ces 48 préludes et fugues, des concerts d'une demi-heure pour reprendre le format habituel du festival. Pour moi, c'est quelque chose de formidable de réussir à mettre en valeur comme ça l'excellence et la variété des jeunes artistes qui sont au Conservatoire de Toulouse. Mais également, par exemple, l'art de la fugue, qui sera joué par ce formidable pianiste qui s'appelle Éric Vidonne, qui a laissé, je pense, un souvenir impérissable aux précédents auditeurs du festival, en particulier avec les variations Goldberg. Voilà. Mais également, bien entendu, l'offrande musicale, œuvre de la fin de la vie de Jean-Sébastien Bach, j'en reparlerai dans un moment, et puis la messe en si, donc qui est aussi son chef-d'œuvre du contrepoint.
Voilà, ça nous amène à la programmation de ce 12e festival. On ne va pas pouvoir la regarder en détail, bien sûr, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, une centaine de concerts et spectacles musicaux, parce que c'est des concerts, mais avec des formes très disparates. Hein. On peut tout de même en mettre quelques-uns en avant. On va commencer, évidemment, par le concert d'ouverture. Et cette année, le concert d'ouverture est donné par Édouard Ferlet. C'est le vendredi 7 juin à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et Édouard Ferlet, c'est un pianiste de jazz. Alors, ça peut paraître un peu inattendu pour ouvrir le festival.
Alors voilà, mais ça fait bien partie de l'esprit du festival qui veut montrer toutes les facettes possibles et imaginables, tous les univers autour de Jean-Sébastien Bach, ce compositeur absolument incroyable qui, bien qu'ayant vécu dans un contexte et une société extrêmement différente de la nôtre, garde une sorte d'actualité absolument incroyable. J'ai constamment l'impression que Jean-Sébastien Bach est à côté de moi, à côté de nous tous finalement, et que c'est comme une sorte de guide dans la vie, et que c'est quelqu'un qui, malgré l'aspect peut-être un petit peu empesé qu'on pourrait imaginer de cette société de ce 18e siècle allemand, en réalité est quelqu'un d'une humanité, d'une tolérance, d'une ouverture absolument extraordinaire. Et donc effectivement, j'ai tenu à inviter Édouard Ferlet. Édouard Ferlet est déjà venu au festival, il avait fait un concert formidable, c'est un des premiers à avoir adapté Bach au piano en jazz d'une manière complètement non conventionnelle, mais là c'est particulièrement intéressant parce que ce concert s'inscrit dans la saison Moondog à Toulouse et qu'il va donc confronter ces deux compositeurs. Vous savez sans doute que Moondog était un fanatique de Bach. Sa mégalomanie ne l'empêchait pas d'ailleurs de dire qu'il composait mieux que Bach, mais je crois que maintenant tout le monde a la preuve que ça n'est pas vrai. Mais par contre, il a beaucoup composé dans le style de Bach. Et Édouard Ferlet, à l'aide de deux pianos électroniques préparés, va confronter les univers de Moondog et de Bach dans un concert, je crois, très 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 décoiffant.
Donc il va les faire dialoguer en quelque sorte.
Voilà, il va les faire, il va confronter leurs deux univers, voilà, absolument.
Il faut qu'on parle un peu des instruments sur lesquels il va jouer, parce qu'il y a un piano automatique et il y a un disclavier. Comment on peut le décrire, ces instruments, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ?
Alors, ce sont des pianos électroniques, en réalité, qui sont programmés, disons, et sur lesquels, quand même, il intervient, bien entendu, en direct, voilà. Mais il y a toute une part de magie dans la préparation de ces pianos. Je ne veux pas trop en dire, parce que je veux que reste la surprise de la découverte de cet instrument.
Alors, pour ceux qui se demandent à quoi ressemble, justement, l'univers, la musique d'Édouard Ferlet, voici un extrait de son album « Sing Back », paru il y a quelques années, un morceau intitulé « Dialogue ». Thank you. Dialogue, extrait de l'album Sing Back d'Edouard Ferlet, qui donnera donc son programme Human Piano lors du concert d'ouverture de Passe-t-on-Bac d'abord 2019, le vendredi 7 juin à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Autre concert que je voulais évoquer avec vous, Michel Brun, bien sûr, c'est celui du pianiste Éric Vidon. Vous en avez parlé il y a quelques minutes. Ce sera le samedi 8 juin à 19h, encore à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et donc là, c'est l'art de la fugue, cette pièce emblématique de l'œuvre de Bach et de son art du contrepoint qui va être donné. Éric Vidon, il a déjà joué lors du festival Passe-t-on-Bac d'abord. Quel rapport il a avec la musique de Bach ?
Alors, ce que je pourrais dire d'Éric Vidon, pour être tout à fait sincère d'une manière générale, c'est que je pense que c'est un des plus grands pianistes français actuels. Mais malheureusement, il n'a pas la reconnaissance, disons, qu'il mériterait à l'heure actuelle. Pourtant, c'est quelqu'un qui s'est produit sur des grandes scènes. Il a joué à la Folle Journée de Nantes, il a joué dans les plus grands festivals. Mais voilà, c'est peut-être parce que c'est un pianiste secret. C'est quelqu'un d'extrêmement pudique, d'extrêmement profond. Vraiment, je crois que ses interprétations des variations Goldberg il y a quelques années, il y a des amateurs du festival qui m'en parlent encore. Quant à l'art de la fugue, c'est cette œuvre un peu mystérieuse puisqu'elle est inachevée. Oui. Hein, la dernière fugue reste inachevée, même si un certain nombre de musicologues se sont attelés à la tâche avec des résultats plus ou moins convaincants. On a cru longtemps qu'elle était inachevée parce que Bach est mort en l'écrivant. En réalité, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas sa dernière œuvre. Sa dernière œuvre est plus probablement la messe en si, mais inachevée très probablement parce qu'il comptait s'y remettre à un moment donné et que effectivement, il n'a pas eu le temps de s'y remettre. C'est une œuvre d'une profondeur absolument extraordinaire où toutes les possibilités du contrepoint sont exploités.
Voilà. Et ça serait la quintessence de ce style finalement.
Voilà, ce serait la quintessence de ce style, absolument, tout à fait.
Parce que,
en tout cas dans la musique instrumentale.
Ouais, je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades. Un certain nombre de mélomanes diraient que l'art de la fugue, c'est un peu le sommet de la musique contrapuntique, mais même peut-être le sommet de la musique savante européenne. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, le grand spécialiste de Bach, vous allez me dire oui, vous.
Oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est-à-dire que le contrepoint, si vous voulez, peut être abordé sous plein d'angles différents. Et ce que je tiens à dire absolument, c'est que en parlant du contrepoint, en disant que c'est une musique qui est exigeante pour le public, évidemment que tout au long du festival, nous allons donner aux festivaliers, aux participants, des moyens d'appréhender ce contrepoint. Il ne faut pas croire qu'on va les lâcher, on va les abandonner lâchement à découvrir tout seul ces œuvres géniales mais complexes. On va les aider à les apprivoiser petit à petit. Et effectivement, je pense que dans le domaine profane, l'art de la fugue est probablement le point culminant de toute l'écriture de Jean-Sébastien Bach, de même que ça l'est dans l'art de la musique religieuse avec la messe en si. Et c'est pas pour rien que ces deux œuvres sont programmées.
Voici justement un extrait de l'art de la fugue interprété par Éric Vidon. Extrait de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach interprété par Éric Vidon qui jouera donc cette même œuvre samedi 8 juin à 19h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et puisque vous en parliez il y a quelques instants, Michel Brun, comment vous allez nous aider, nous les profanes, à appréhender l'art du contrepoint ? Comment vous allez nous faire entrer dans cette affaire ?
Alors, de multiples manières, puisqu'il y a plusieurs projets qui visent effectivement à rendre ce contrepoint familier pour les auditeurs, en tout cas ceux pour lesquels il ne l'est pas encore. À commencer par le concert de présentation, le traditionnel concert de présentation, le samedi donc à 14h, qui aura lieu à l'Hôtel Dieu. Habituellement, je prends la parole, je présente les différents moments forts du festival, je souhaite bon courage aux festivaliers, je leur conseille de se munir de vitamines et de fortifiants pour courir pendant tout le week-end. Et là, cette année, ce sera très différent. C'est le public lui-même qui va appréhender le contrepoint, puisque avec l'aide d'une coach vocale et de moi-même, et bien sûr des musiciens et des choristes de l'ensemble baroque de Toulouse, nous ferons chanter le public et nous lui ferons chanter du contrepoint. Voilà, c'est-à-dire un canon qui ne sera pas Frère Jacques, hein, mais qui sera un canon. Et donc, dès 14h le samedi, le public saura à quoi s'en tenir. Il sera lui-même placé au cœur du contrepoint. Je reviens sur l'extrait qu'on vient d'entendre. Vous avez vu quel extraordinaire poète du piano est Éric Vidonne. Et je pense que chacun a pu saisir ce que c'était, ces différentes entrées.
Oui.
Hein, l'art,
c'est assez typique,
l'art du compositeur, mais aussi l'art de l'interprète, là, est très important. Parce qu'il faut réussir à mettre en valeur ces différentes entrées sur ce même thème, sans en même temps faire un focus trop marqué dessus. Et donc, c'est un art du dosage que découvrira le public dès le concert d'ouverture. Et puis, alors après, un autre exemple. La messe en si que nous interpréterons donc en clôture du festival, en amont sera présenté un atelier qui donnera des clés d'écoute, un petit peu comme nous l'avions fait il y a 2 ans pour La Passion selon saint Matthieu, mais cette fois-ci en l'accent particulièrement sur l'écriture du contrepoint pour donner des clés d'écoute au public. Et je pense que le succès qu'avaient remporté ces ateliers n'avait pas été pour rien aussi pour l'engouement au moment de l'interprétation de La Passion selon saint Matthieu. Et c'est le même processus un petit peu que je souhaite montrer. Un autre exemple encore, si vous voulez, les Sacboutiers, nos amis les Sacboutiers qui viennent intervenir donc pendant ce festival, proposent un concert interactif avec le public, c'est-à-dire que le public sera amené, guidé par une sorte de monsieur loyal. Alors le monsieur loyal en question, c'est un des plus grands musicologues actuels et qui est également membre des Sacboutiers, qui s'appelle Philippe Canguilhem, qui est presque aussi bavard que moi, qui proposera au public de choisir des thèmes sur lesquels les Sacboutiers feront du contrepoint en direct. Voilà. Et donc, on sera dans l'arrière-cuisine des compositeurs pour savoir comment on compose une œuvre en contrepoint. Voilà un certain nombre d'exemples.
Alors, cette 12e édition, donc le sous-titre, c'est l'offrande musicale. C'est le titre d'une œuvre de Jean-Sébastien Bach, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, le samedi 8 juin à 22h au couvent des Jacobins, elle va être donnée, cette œuvre, par des musiciens d'ensemble baroque de Toulouse pour la partie musicale. Et pourquoi je dis pour la partie musicale? Parce que j'en dis, mais à part de la musique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien non, il n'y aura pas que de la musique. Alors expliquez-nous un peu. 22h, tombée de la nuit, couvent des Jacobins, la musique, et puis...
La musique et puis cette idée. À partir du moment où le contrepoint est donc ces lignes qui s'entremêlent, qui se superposent et s'entremêlent, je me suis dit qu'un des moyens de rendre le contrepoint sensible au public, accessible au public, c'était de le rendre visuel. C'est-à-dire que ces lignes ne restent pas seulement auditives, mais qu'on les voit s'incarner visuellement. Et j'ai cherché donc à concevoir un spectacle qui permette de visualiser ces lignes. Les deux arts visuels qui m'ont semblé les plus frappants sur ce plan-là, c'est bien entendu la danse. Deux voix qui s'entrecroisent peuvent parfaitement être représentées par deux danseurs ou deux danseuses qui s'entrecroisent et qui montrent ce que c'est que l'entrecroisement de ces voix. Et c'est pour ça qu'il y aura donc toute une partie de ce concert qui sera dansée par 6 jeunes danseuses de l'ISDAT, donc l'Institut supérieur des arts, qui ont fait un travail absolument formidable avec un jeune chorégraphe qui s'appelle Bruno Ben. Et également, le deuxième art visuel, c'est évidemment la vidéo. Et alors là, un vidéaste toulousain a fait un travail absolument extraordinaire, lui aussi avec ses étudiants, les étudiants du lycée des Arènes. Il s'est emparé d'une fugue à 6 voix de Jean-Sébastien Bach, et à chacun des instruments qui joue donc une de ses lignes musicales, il a confié une vidéo qui sera projetée sur un écran. Donc si vous m'avez bien compris, dans le réfectoire des moines, il y aura 6 écrans qui, en même temps que sur chaque écran sera placée une enceinte qui fera un focus sur un instrument de la fugue en question, projettera une vidéo en rapport avec cette fugue. Alors c'est extraordinaire parce qu'en plus, il a fait un travail donc, qui, on pourrait dire un peu explicatif, mais qui à la base est surtout un travail très poétique, puisque toutes les images sont des images des Jacobins, filmées de nuit, de jour, dans des endroits où on ne va jamais, le clocher, etc., etc. Et il donne à voir ces différentes lignes, et vous allez voir, il y a une idée de génie derrière ça, un fil conducteur sur le thème qui hante cette fugue de Jean-Sébastien Bach. Donc c'est un spectacle à part entière qui sera donné en déambulation, donc dans le cloître, dans la salle capitulaire et dans le réfectoire des frères des Jacobins.
l'offrande musicale samedi 8 juin à 22h au couvent des Jacobins. Et puis apothéose et concert de clôture de cette 12e édition, la messe en si de Jean-Sébastien Bach à la Lograin dimanche 9 juin à 17h15 par l'ensemble baroque de Toulouse sous votre direction Michel Brun. Là aussi, il n'était pas envisageable de terminer ce festival autrement que par cette œuvre monumentale et si représentative de l'art du contrepoint de Bach. Et puis en plus, c'est sa dernière œuvre, semble-t-il.
Tout à fait.
Alors qui vont être les chanteurs? Parce que il n'y aura pas que l'ensemble baroque. Là, il va y avoir des solistes. Il y en a qu'on connaît, il y en a dont les noms sont peut-être un peu moins connus. Présentez-les-nous. On va commencer par les sopranos, et là, on les connaît, Clémence Garcia et Anne Ortouillard.
Voilà. Alors, Clémence Garcia, nous l'avons entendu il n'y a pas très longtemps.
Cantate sans
filet.
Dans
la cantate « Yarsot Gott in allem Land ». C'était magnifique.
Voilà.
Donc, on se réjouit de la
voilà,
revoir.
Tout à fait. Alors, d'une manière générale, ces chanteurs sont tous donc représentatifs de la magnifique école de chant toulousaine, à part l'un d'entre eux. Clémence Garcia, effectivement, nous l'avons entendu dimanche dernier dans la magnifique cantate 51 avec trompette. Et nous l'avons entendu quelques temps avant, pour ceux qui étaient là, dans La Passion selon Saint-Mathieu à la Lograin. Elle a fait partie de cette équipe extraordinaire de jeunes chanteurs, incroyablement doués, talentueux, et qui ont aussi, comment dirais-je, cet état d'esprit particulier à l'ensemble baroque de Toulouse, c'est-à-dire cette capacité à s'engager dans des projets parfois un peu fous, sans compter leur temps et leur énergie. Et Clémence est une très très prometteuse jeune chanteuse française, sans aucun doute. Voilà. Anne Lortouillat donc, a déjà beaucoup chanté avec l'ensemble baroque. Elle figure d'ailleurs aux côtés de Clémence dans l'enregistrement du Triomphe des Arts que nous avons effectué il y a quelques années, cet opéra de Dupuis. Nous avons en alto, alors Caroline Champy-Toursune, pareil, une grande familière des concerts de l'ensemble, ouais. Voilà, qui était également là pour La Passion, et je pense que tous ceux qui y étaient se souviennent de son Herbarmedisch qui avait arraché les larmes. Voilà. Alors, le ténor est un jeune ténor italien absolument prodigieux. Je ne vous dis que ça. Nous avons déjà donné la messe en si avec lui au Festival International de Lourdes l'an dernier et nous en avons tous gardé un souvenir absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai tenu à l'inviter dans ce magnifique ensemble de solistes.
Mattia Pelosi.
Voilà, Mattia Pelosi, absolument, qui chante aussi bien le bel canto italien que la musique baroque. C'est un talent absolument inouï. Et le baryton est donc Philippe Estef, qui était également Jésus et un des solistes barytons de La Passion selon Saint-Mathieu, qui est un des jeunes chanteurs, on peut dire actuels, très prometteurs, hein, qui est en train de démarrer une très belle carrière nationale et internationale. Et donc, c'est avec un grand bonheur que nous accueillons ces solistes autour de nous.
Donc, ce sera à 17h15, dimanche 9 juin, à la Lograin. Avant, à 15h, il y aura donc les explications, les clés de compréhension que vous donnerez au public pour ceux qui vont bien participer lors de cet atelier. 15h à Lograin. J'ai un court extrait de la messe en si interprétée par l'ensemble baroque à vous proposer, histoire de se rappeler à quel point cette œuvre est belle. La messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, interprétée par l'ensemble baroque de Toulouse, que vous pourrez entendre en entier cette fois-ci, est donnée par ce même ensemble baroque dimanche 9 juin à 17h15 à la Lograin de Toulouse. Et comme il nous reste quelques instants, avant de terminer cette émission, je vais donner la parole à Serge Chosy pour qu'il nous présente le prochain concert et dernier concert de la saison des grands interprètes. C'est le mercredi 5 juin à 20h à la Lograin et c'est un des plus grands pianistes vivants qui va le donner, le Brésilien Nelson Frère. Alors il va nous jouer un très copieux, Serge.
Ah oui, tout à fait. Caractéristique des programmes que donnaient les grands virtuoses du XXe siècle avec une multitude de petites œuvres. Petites par la longueur, hein, par l'importance. Donc effectivement, c'est le retour de Nelson Frère, qui est un peu un habitué des concerts grands interprètes. Il est très souvent invité.
Oui. Hein,
et c'est justice, parce que c'est vraiment l'un des plus grands actuels. Il va ouvrir par deux petites sonates de Scarlatti, mais il en a composé 555, donc elles sont forcément pas très longues chacune. La fameuse sonate numéro 14 de Beethoven, Clair de lune. Puis les quatre clavichuques de l'opus 119 de Brahms. Et trois danses fantastiques de Shostakovich, un nocturne de Paderewski, et puis ça finira par une espèce de
de florilège de Chopin, évidemment, avec une polonaise, un impromptu, deux mazurkas et la troisième ballade en la bémol majeur. Donc, un programme consistant, hein, et puis très varié, qui vraiment devrait réjouir tous les amateurs de clavier et de piano, parce que Nelson Frère a d'abord une sonorité incroyable, d'une douceur, d'une rondeur formidable, puis il a une carrière stupéfiante. N'oublions pas son amitié avec Martha Argerich. Hein.
Ouais,
ils ont fait leurs études ensemble, ouais, ouais. Ils ont souvent joué ensemble à deux pianos à 80. Donc on se réjouit d'assister à ce dernier concert de la brillante série des grands interprètes. Il y a eu cette année vraiment des concerts.
Oui, on l'avait dit en début de saison, on n'a pas été déçus. On a entendu de très belles choses. Il faut hélas conclure ce numéro de Mélomanie. Un grand merci à mes amis Anne-Marie Chouchan et Serge Chosy d'y avoir participé et d'avoir apporté une fois de plus leur expertise. Et un autre grand merci à Michel Brun d'en avoir été l'invité d'honneur. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de discuter avec vous, Michel, même si vous êtes bavard, mais nous on s'en réjouit que vous soyez bavard. Je rappelle que la 12e édition de Passe ton bac d'abord a lieu à Toulouse du vendredi 7 au dimanche 9 juin. Une centaine de concerts et spectacles musicaux dans 30 lieux différents de la Ville Rose. Je vous invite à les découvrir en consultant le site de l'ensemble baroque de Toulouse, www.baroquetoulouse.com, à la rubrique Passe ton bac. Vous pourrez aussi y réserver vos places pour les événements dont nous avons parlé au cours de cette émission, et notamment le concert de clôture avec la messe en si au programme dimanche 9 juin à 17h15 à la Halle au Grain. Je rappelle les dates des autres événements musicaux de la semaine, à commencer par le récital dont nous venons de parler, celui du pianiste Nelson Frère, mercredi 5 juin à 20h, encore à la Halle au Grain, dans le cadre de la saison des grands interprètes, et pour lequel vous pouvez vous informer et faire vos réservations sur le site www.grandsinterprètes.com. Et puis je signale aussi le récital de la soprano Béatrice Uria Monzon vendredi 7 juin à 20h au Théâtre du Capitole, accompagné alternativement par le pianiste Marcello Amaral et notre cher jeune guitariste toulousain Thibaut Garcia. Ils vont interpréter un programme essentiellement espagnol, avec tout de même perdu au milieu des pièces de Granados, Tourinha, Defaya, Lorca et Obradors, une œuvre de Maurice Ravel. Pour en savoir plus, vous pouvez vous renseigner et réserver sur le site www.théâtreducapitole.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, qui est disponible en podcast et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.